bienvenue au service francophone vers l'Afrique, tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 16 octobre 2014, en direct du studio 13 à Washington, chez Rubin Dorcil et Morgane Guiriac. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Chérubin, bonsoir l'Afrique.
Au sommaire ce soir, des attaques à Beni dans l'est de la RDC ont fait 30 morts mercredi soir.
Principalement, ce sont les adversaires qui opèrent et les modes opératoires qui viennent et décapitent les civils à la machette.
Le présumé détournement de fonds donné par l'Angola à la RCA à nouveau au centre d'un débat à Bangui.
Le Conseil national de transition prend la décision de mettre en place une commission d'enquête parlementaire chargée de faire toute la lumière sur la gestion de ce don.
Alexandre Ferdinand Nguende, président du CNT à Bangui.
Reprise à Vienne des pourparlers sur le nucléaire iranien, Téhéran demande le respect de la date butoir du 24 novembre pour un accord.
À Caen, un vaccin contre Ebola. Les essais procèdent à une vitesse éclair, tandis que s'alourdit le bilan de l'épidémie.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais d'abord le journal.
En RDC, à Beni, une trentaine de personnes ont été tuées à la machette la nuit dernière dans la principale ville du nord-est du pays. Les autorités militaires accusent les rebelles ougandais ADF Nalu. La société civile dénonce pour sa part le relâchement des opérations militaires de l'armée congolaise et des casques bleus depuis l'assassinat du colonel Mamadou Ndala dans cette région. Le président de la société civile à Beni, Teddy Kataliko.
Dans les quartiers de Ngadi, à la commune de Renzori, ils ont exécuté 30 personnes sommairement, dont 2 militaires et 28 civils. Nous avons dépouillé les cadavres au niveau du village pour les ramener à la morgue de l'hôpital général de Beni. Principalement, ce sont les ADF Nalu qui opèrent et les modes opératoires, c'est ils viennent, ils décapitent le civil à la machette. Cette soirée au lieu de ramasser où ils promettent opérer cette nuit dans la localité de Mavivi. Et cette localité de Mavivi abrite l'aéroport national de Beni et abrite aussi le quartier général de la MONUSCO.
Teddy Kataliko de la société civile à Beni, au micro d'Eddy Isango. Par ailleurs, notant que Kinshasa demande le rappel du chef du bureau de l'ONU pour les droits de l'homme, RDC, Scott Campbell. Richard Mouyege, ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo.
Il nous revient donc de constater avec amertume que le présent rapport sous examen a été mené de manière partiale et partisane avec l'intention manifeste de discréditer notre police nationale, de démoraliser des agents et de déstabiliser les institutions de la République. Nous croyons sincèrement que nous ne pouvons pas nous permettre d'être naïfs et continuer de croire en la bonne foi de M. Scott Campbell qui s'illustre dans des actes visant à mettre des bâtons dans les roues de notre équipe commune avec la MONUSCO et qui chercherait à nous mettre en porte-à-faux avec notre population et notre police. Nous nous posons la question de savoir si son esprit est en place. Le moment est sans doute venu de nous séparer d'avec lui et de demander au secrétaire général des Nations Unies de les retirer de notre pays pour manque de professionnalisme et d'honnêteté, n'en déplaise à M. Scott Campbell.
En République centrafricaine, le Conseil national de transition réclame une enquête parlementaire sur le présumé détournement d'une partie du don angolais. Le point avec Idriss Fall.
Après 2 jours d'intenses débats au siège du Parlement provisoire, Mahamat Kamoun n'a pas convaincu les conseillers nationaux. Certains exigeaient la démission du chef de gouvernement, d'autres voulaient plus de clarté sur la gestion du don angolais. Alexandre Ferdinand Nguende, président du CNT.
Le Conseil national de transition prend la décision de mettre en place une commission d'enquête parlementaire chargée de faire toute la lumière sur la gestion de ce don, conformément à l'article 23 du règlement intérieur du Conseil national de transition.
Mais cette idée d'enquête ne semble pas rencontrer l'agrément du Premier ministre qui estime que l'interpellation devant le CNT était suffisante, ajoutant qu'une partie de l'aide angolaise a été utilisée dans les fonds spéciaux de l'exécutif, même si les procédures n'ont pas toujours été convenablement suivies. Par ailleurs, un calme précaire a régné ce jeudi à Bangui. Au moins 8 personnes, dont un chef anti-Balaka, ont été tuées dans les violences ces 2 derniers jours.
Le point sur l'épidémie d'Ebola, l'aide internationale va s'étendre à 15 pays africains et aux États-Unis, les autorités sanitaires sur la sellette pour leur réponse jugée inadaptée. Le point avec Eddie Isango.
D'après l'OMS, cette aide a accru à 15 pays africains dont la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali et le Sénégal vise à empêcher la propagation du virus. L'Europe va vérifier l'efficacité des mesures de contrôle au départ des trois pays les plus touchés, mais pour l'OMS, les contrôles des températures dans les aéroports ne réglaient pas le problème puisque les symptômes peuvent se déclarer bien après l'entrée sur le territoire. En France, une infirmière qui avait soigné une volontaire rapatriée du Libéria a été hospitalisée hier. Elle souffrait d'une fièvre élevée. Et ici aux États-Unis, le directeur des centres de contrôle des préventions des maladies, le docteur Thomas Frieden, a dû s'expliquer devant les parlementaires américains suite à la contamination de deux infirmières dans un hôpital de Dallas au Texas.
Disons aussi que des écoles américaines dans l'Ohio et le Texas ont été fermées ce jeudi par crainte que des élèves ou des enseignants aient eu des contacts avec la deuxième infirmière contaminée qui a pris l'avion entre ces deux États.
La ville de Benghazi, dans l'est de la Libye, a été à nouveau le théâtre d'affrontements violents entre les forces du général Khalifa Haftar et les milices islamistes qui contrôlent la deuxième cité du pays. Jean-Roger Billon.
Des combats violents ont repris ce jeudi après une matinée relativement calme. Selon l'AFP, des explosions et des tirs avaient déjà résonné cette nuit dans différents quartiers de Benghazi. Les affrontements ont fait au moins 25 morts depuis le début de cette nouvelle offensive des forces du général Haftar appuyées par l'armée. Face à la faiblesse du gouvernement de transition, le général Haftar, qui avait participé à la révolte contre Kadhafi, avait lancé en mai une opération contre les milices qu'il a qualifiées de terroristes. La nouvelle flambée de violence risque de compromettre le dialogue politique lancé par l'ONU à la fin du mois de septembre dans le but de mettre fin à l'anarchie institutionnelle dans le pays. Lors d'une visite à Tripoli, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait appelé samedi à la fin des hostilités, réclamant notamment un arrêt des combats entre les forces du général Haftar et les islamistes.
Lutte contre le terrorisme en Afrique. L'armée française a mis la main sur 3 tonnes d'armes dans le nord du Niger. La saisie s'est produite le 10 octobre lors de l'interception d'un convoi djihadiste en provenance de Libye. Il transportait notamment des missiles sol-air et des roquettes anti-chars.
Bilan des inondations au Niger. Au moins 36 personnes sont mortes et plus de 68 000 ont été sinistrées, estime l'ONU. Les fortes pluies qui ont débuté en juin ont aussi entraîné la perte de 2 816 hectares de champs.
Au Mozambique, la RENAMO, principal parti d'opposition, n'entend pas reconnaître le résultat du scrutin d'hier. Les premiers résultats portant sur un quart des bureaux de vote donnent le candidat au pouvoir, Philippe Nyusi, en tête avec 63% des voix.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, l'Iran examinerait une proposition américaine qui lui permettrait de garder intacte une bonne partie de son infrastructure nucléaire tout en réduisant sa capacité à fabriquer une bombe atomique. C'est ce que deux diplomates au pourparlers de Vienne ont confié à l'agence Associated Press, nous dit Lionel Gaïma.
Le HIC, c'est le programme iranien d'enrichissement d'uranium. Téhéran insiste sur sa nature civile et refuse de réduire le nombre de ses transfuseuses, comme l'exige Washington. Depuis bientôt un an, les représentants de l'Iran et de 5 membres permanents du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne, tentent d'arriver à un accord en échange de la levée des sanctions contre Téhéran. Selon l'agence Associated Press, les États-Unis seraient prêts à tolérer un plus grand nombre de centrifugeuses si Téhéran acceptait de réduire ses stocks d'uranium faiblement enrichis qui peuvent être transformés en matériaux hautement enrichis pour fabriquer au moins cette bombe. L'Iran exclut la poursuite des négociations au-delà de la date butoir du 24 novembre. Son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré que ce n'est même pas la peine d'y penser. La diplomatie américaine ne veut pas non plus parler d'extension pour le moment.
La Russie et les États-Unis ne se sont pas mis d'accord sur le partage de renseignements concernant le groupe État islamique, a indiqué aujourd'hui la diplomatie russe. C'est un démenti aux déclarations du secrétaire d'État américain John Kerry à Paris mardi. Sur le terrain, les milices kurdes de Kobané en Syrie résistent à l'offensive des djihadistes avec le soutien aérien de la coalition dirigée par les Américains. En un mois de combat à Kobané, plus de 600 personnes ont trouvé la mort, mais le bilan pourrait être 2 fois plus élevé, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Ouverture à Milan en Italie d'un sommet de 2 jours réunissant plus de 50 pays. Le principal sujet de discussion sera l'Ukraine, mais les participants discuteront également d'économie et de terrorisme. Le président Vladimir Poutine doit rencontrer son homologue ukrainien Petro Poroshenko.
L'Assemblée générale de l'ONU a élu aujourd'hui 5 nouveaux membres non permanents au Conseil de sécurité. Il s'agit de l'Angola, du Venezuela, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Espagne. Le Conseil, qui compte 15 membres, dont 5 permanents, renouvelle chaque année la moitié de ses 10 sièges non permanents sur une base régionale. Les nouveaux membres entameront en janvier un mandat de 2 ans.
En Afghanistan, les forces de sécurité ont capturé 2 hauts dirigeants du réseau Haqqani. Selon des responsables, il s'agit d'Anis Haqqani, fils du chef du réseau, et d'un commandant nommé Hafiz Rachid. L'opération s'est déroulée mardi. Le réseau Haqqani, un allié des talibans afghans et de la nébuleuse Al-Qaïda, est accusé d'avoir perpétré certaines des attaques les plus sophistiquées contre les groupes de l'OTAN et l'armée afghane.
Et les recherches se poursuivent dans les montagnes de l'Himalaya au Népal pour des randonneurs portés disparus suite à une tempête de neige et des avalanches qui ont fait au moins 20 morts. On est sans nouvelles d'au moins 70 personnes, militaires et civils, à pied ou en hélicoptère, participent aux recherches. Voilà pour le journal, 18h41 en temps universel, 14h41 ici à Washington, chez Robin Dorcil et Morgane Guiriec en votre compagnie. Restez branchés pour nos dossiers du jour. Au Nigeria, 59 soldats accusés d'avoir refusé de combattre les islamistes de Boko Haram ont comparu hier devant une cour martiale d'Abuja. Tous membres des forces spéciales, ils ont plaidé non coupables. 97 autres soldats avaient comparu en début de mois et 12 ont été condamnés à mort le mois dernier, Morgan.
Ces militaires avaient, le 4 août, refusé d'aller combattre les islamistes qui avaient pris le contrôle de plusieurs localités de l'état de Borno. Ces affaires suscitent de vives réactions au Nigeria. Timothée Donangmaï a recueilli l'éclairage du professeur Ali Bouhari de l'université de Kepi, près d'Abuja.
Les opinions publiques sont contre la traduction de ces soldats qui ont révolté contre les autorités de l'armée nigériane parce qu'on vient de découvrir que le gouvernement fédéral même n'a pas rempli sa responsabilité envers les soldats, à savoir de les fournir avec les armements dignes pour combattre les rebelles ou bien les militants islamistes de Boko Haram. Les soldats n'ont pas refusé d'aller à la ligne de front pour rien. Ils exigeaient la fournition des armements dignes pour combattre les effectifs de Boko Haram.
Quel est l'impact de cette situation sur la lutte contre Boko Haram?
Bon, comme vous le savez, le gouvernement fédéral vient de procurer des armements lourds pour combattre les Boko Haram. Maintenant, l'armée nigériane a suffisamment reçu de matériel pour combattre les Boko Haram. Malgré les scandales en Afrique du Sud, des millions de dollars saisis par le gouvernement de l'Afrique du Sud, le Nigeria, maintenant, selon des sources officielles, est capable de fournir l'armée nigérienne avec des armements suffisants pour contrecarrer les efforts d'islamistes de Boko Haram.
Pensez-vous que cela va ramener le calme au sein des troupes?
Ça sera vraiment difficile à ramener le calme parce que la morale de plusieurs soldats est déjà très très bas. Bon, l'armée c'est l'armée, on ne peut pas faire autrement parce qu'ils ont signé avant de s'engager dans cette fonction. On ne peut pas faire autrement. Donc, le choix reste toujours au président Goodluck Jonathan d'accorder les pardons à ces militants de l'armée nigériane.
Le professeur Ali Bouhari de l'université de Kepi, près d'Abuja.
Alors que d'ordinaire, les essais de vaccins expérimentaux prennent des années, ceux mis au point contre la fièvre hémorragique à virus Ebola procèdent à une vitesse éclair vu l'urgence de la situation en Afrique de l'Ouest. Écoutons Jean-Roger Bion.
Pour qu'un nouveau médicament obtienne le feu vert des autorités de réglementation américaines, les chercheurs sont tenus de procéder à des essais cliniques exhaustifs, histoire de prouver que le médicament est à la fois sûr et efficace. Les essais impliquent généralement des milliers de personnes et peuvent prendre des années. L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamentaux, la Food and Drug Administration ou FDA, a mis en place une règle stricte, celle des animaux. Les traitements et vaccins doivent faire l'objet d'essais sur les bêtes avant d'être administrés à des humains. Mais aujourd'hui, le temps presse et la FDA se montre plus flexible, explique Thomas Geisbert, microbiologiste à l'Université du Texas à Galveston. En ce qui concerne les traitements contre le virus à Ebola, la FDA a décidé que les scientifiques n'ont qu'à montrer qu'un composé s'est révélé efficace chez l'animal, dans ce cas-ci, les singes. M. Geisbert a aidé à développer le candidat vaccin contre l'Ebola surnommé le VSV Ebola, qui cette semaine a été administré à 20 volontaires à l'Institut de recherche Walter Reed de l'armée américaine dans le Maryland.
En même temps, vous lancez une phase classique d'un essai. C'est juste une étude où vous donnez un vaccin ou un traitement à un volontaire en bonne santé, juste pour s'assurer que chez les personnes saines et normales, votre vaccin ou médicament ne cause pas une maladie ou une réaction indésirable grave.
En ce qui concerne le ZIMAP, un autre traitement expérimental américain contre le virus à Ebola, il n'a même pas fait l'objet d'essais sur des animaux, mais a été offert à quelques patients aux États-Unis. Les doses dont disposait ce laboratoire sont aujourd'hui épuisées. Un autre candidat vaccin développé par le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline a été mis à l'essai au Mali, tout comme le VSV Ebola. Il s'est montré efficace à 100% chez les singes et sans effet secondaire. À noter que les sociétés pharmaceutiques ont été dispensées d'une autre obligation, celle d'administrer des placebos en plus des traitements. Le taux de mortalité du virus à Ebola atteignant jusqu'à 90%, il serait contraire à l'éthique de les employer, selon les autorités sanitaires.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
805 millions de personnes dans le monde souffrent de malnutrition chronique, dont une majorité toujours en Afrique de l'Ouest. C'est ce que rappelle le Programme alimentaire mondial en cette journée internationale de l'alimentation. Claire Morin-Gibourg a joint Elisabeth Birce, porte-parole du Programme alimentaire mondial.
Il y a eu des progrès, certes, puisque depuis les dernières années, on comptait 1 milliard de personnes qui souffraient de faim chronique. Des progrès, mais qui restent fragiles. Il faut continuer. Il y a toujours plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent de faim chaque année, qui meurent des conséquences de la malnutrition, et notamment en Afrique. Et c'est la principale lutte que nous avons à mener. On peut arriver à vaincre la faim, mais il faut que les politiques soient présents, il faut qu'ils répondent.
Est-ce que vous êtes particulièrement inquiet de l'épidémie Ebola ?
Le Programme alimentaire mondial est extrêmement inquiet par l'extension, le développement de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, en Guinée, au Libéria. Des régions qui n'étaient pas touchées par la faim sont maintenant en situation extrêmement précaire. Nous avons fait des évaluations, les premières, qui montrent déjà ce premier constat. Les prix se sont envolés, plus de 24% les prix de la nourriture. Les conséquences sur les familles où, par exemple, celui qui gagnait l'argent est malade ou est mort, on a des conséquences dramatiques et qui vont se multiplier. Suivant certaines études, 40% des terres ont été abandonnées par les agriculteurs en Sierra Leone. C'est un chiffre qu'il faut confirmer encore, mais c'est une tendance qui va, je pense, malheureusement, se confirmer.
La situation en Soudan du Sud est également particulièrement inquiétante, hein ?
Nous essayons de faire que ce pays ne tombe pas dans la famine, si on peut dire. C'est un mot terrible que nous ne prononçons pas. On fait tout pour éviter une catastrophe de la faim. Les régions les plus touchées sont en classification 4 et malheureusement la classification suivante dans le jargon onusien, c'est la déclaration de la famine. Nous n'y sommes pas. Il y a eu de légers progrès de fait au Sud-Soudan et le programme alimentaire mondial, justement, essaie de faire tout ce qu'il peut pour apporter une assistance alimentaire dans ce pays. Mais étant donné les conditions difficiles d'accès, de sécurité, c'est un défi de tous les jours.
Elisabeth Birce, porte-parole du PAM, le Programme alimentaire mondial, a noté que le PAM va fournir des denrées alimentaires à 1 300 000 personnes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone.
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, chez Ruben Lorsil et Morgane Guiriec, en votre compagnie. Lors de la 131e Assemblée de l'Union interparlementaire sur le thème combiné « Égalité entre hommes et femmes, mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles », les participants ont réaffirmé l'importance de la parité en politique.
Nathalie Barge a joint à Genève la députée nationale congolaise Fifi Seni Masuka, seule femme sur les 13 représentants de Lubumbashi dans le Katanga.
Je regrette toujours d'être la seule parce que vous savez, être parmi 12 hommes, tu es la seule. Ta voix n'est pas toujours prépondérante et j'exhorte toujours les autorités à pouvoir élaborer une loi électorale qui va permettre aux femmes d'accéder aussi au pouvoir et beaucoup plus dans les domaines si nous pouvons aussi avoir une facilité financière. C'est ce aussi qui freine parce que les campagnes électorales sont trop coûteuses pour les femmes. Notre assemblée compte 500 députés. Sur les 500 députés, aujourd'hui quand même, il y a une toute petite évolution par rapport à l'autre législature. Nous sommes à 53 femmes.
Ça fait un petit 10% quoi.
C'est un petit 10%. En 2006, nous étions à 8%.
C'est vraiment faible si on compare à pas mal d'autres pays, bah notamment le Rwanda, hein, juste à côté, un bon exemple.
Oui, le Rwanda, aujourd'hui, dans le monde, c'est un pays exemplaire. Évidemment, ils ont 100 députés. Sur, je crois, 100 députés, ils ont 62 ou quelque chose comme ça pour cent de la femme. Mmh. C'est un exemple à suivre. Je crois que si on pouvait faire beaucoup plus confiance à la femme, si tous les pays pouvaient suivre l'exemple du Rwanda, je crois que nous pouvions avoir beaucoup de femmes dans les institutions de prise de décision. Et je crois que c'est une bonne chose. Je suis parmi les députés femmes qui incitent les autres femmes à venir d'abord dans la politique et deux, de pouvoir aussi postuler pour pouvoir être députée, d'avoir des postes de responsabilité. J'ai été élue moi-même personnellement par les femmes. Ce sont les femmes qui m'ont soutenue et j'aimerais aussi faire la même chose pour ces mêmes femmes qui m'ont aujourd'hui élevée au poste où je suis. Je me serais d'exhorter les femmes et que nous puissions cheminer ensemble en un monde de parité où la femme et l'homme peuvent travailler ensemble.
La députée congolaise Fifi Seni Masuka, membre du comité des sages et présidente du parti politique FIDEC, que vous entendrez samedi à 19h35 temps universel dans le magazine Au Féminin, entre autres invités.
L'actualité sportive avec Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Retour sur la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2015 et le Nigeria qui change de sélectionneur.
Eh oui, coup tordu. Hein. La fédération nigériane de football qui a annoncé le limogeage de Stephen Keshi. C'est Shaibu Amodou qui lui succède au poste de sélectionneur des Super Eagles. La décision a été prise avant mercredi, hein, malgré la première victoire des champions d'Afrique dans les éliminatoires de la CAN 2015. C'était face au Soudan, 3-1. Sans contrat, en guéguerre avec sa tutelle, Keshi avait ouvert le feu par voie de presse ces derniers jours, accusant certains dirigeants de la fédération de sabotage. La sanction est donc tombée ce jeudi.
Côté terrain, l'Algérie et également le Cap-Vert, je crois, sont les premières nations à obtenir leur ticket pour cette CAN qui se jouera au Maroc.
4 victoires en 4 matchs pour les Algériens. La dernière hier, 3-0 à Blida face au Malawi. En revanche, ça va mal pour la Côte d'Ivoire, battue hier 4-3 sur son terrain. Un match à suspense par la République démocratique du Congo. Les deux équipes comptent désormais 6 points chacune derrière le Cameroun. Sans Didier Drogba, Hervé Renard n'a toujours pas trouvé la bonne formule à la tête des éléphants. On écoute le sélectionneur de la Côte d'Ivoire.
Quand on est confronté à des contre-attaques et on est aussi peu résistant défensivement, c'est difficile d'espérer quelque chose. Et sur les contres, notamment en première mi-temps, à chaque contre, on a été sanctionné. sans pratiquement aucune réaction défensive. On a pourtant marqué des buts exceptionnel qui aurait mérité autre chose au bout, mais c'est comme ça. Contrairement à ce que vous dites, je vous ai jamais dit que c'était une bonne chose de perdre à domicile, mais ça fait partie de la vie. Dans la vie, il n'y a pas toujours des moments faciles. Donc si vous avez seulement des moments faciles dans votre vie, vous avez de la chance. Moi, ça n'a pas toujours été le cas. Et je peux vous dire que la qualification sera au bout.
Les moments faciles ou non d'Hervé Renard. En revanche, les Léopards sont tout sourire, à l'image de leur sélectionneur Florent Ibengué, qui s'exprimait lors de la conférence de presse d'après-match.
Une grande satisfaction évidemment de l'avoir emporté et surtout d'avoir rétabli un petit peu ce qu'on avait perdu au match aller. On voulait justement jouer cette équipe en étant solide défensivement parce qu'on savait qu'ils allaient laisser des espaces derrière. Donc on en a profité en étant solide, surtout en première mi-temps. Et on a joué vraiment comme on le voulait. Et puis malheureusement, comme notre équipe est jeune, donc évidemment elle a les qualités de sa jeunesse et aussi les défauts qui font qu'au lieu de conserver le ballon en seconde mi-temps, comme on pouvait le faire en étant à 11 contre 10, on a laissé les vieux briscards de la Côte d'Ivoire revenir petit à petit à la marque. Donc, bravo vraiment à mes joueurs. Si on perdait là, c'était fichu. Donc on ne voulait pas mourir aujourd'hui, on voulait rester dans la course pour que la qualification se joue. C'était un groupe très difficile pour que ça se décide à la dernière journée.
Voilà Florent Ibengué, le sélectionneur de la RDC.
Et la menace Ebola plane toujours sur cette CAN, Nicolas.
Même si le pays organisateur, le Maroc, a annoncé le lancement d'un plan national pour empêcher l'entrée du virus Ebola dans le royaume, l'entraîneur de Dortmund, Jürgen Klopp, s'est déclaré inquiet du maintien de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 face à l'épidémie d'Ebola qui frappe évidemment l'ouest du continent africain. Les autorités marocaines avaient réclamé vendredi dernier, souvenez-vous, le report de cette épreuve auprès de la Confédération africaine.
Voilà, les sports avec Nicolas Pinot.
Allez, c'est l'heure de la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Bébé Matou, de son vrai nom Mathurin Koyabadé, est un chanteur centrafricain qui évolue en France depuis quelques années. L'invité de RM Show nous a parlé de sa chanson Dodona Respect.
Dodona Respect ne dansez pas avec une femme d'autrui. En Côte d'Ivoire, on dit que non, toi tu veux taper sur mon dos. Ounoua Bangui ne danse pas avec une femme d'autrui. J'ai interprété, au fait, c'est pas ma chanson que j'ai chantée, mais ça, c'est la chanson de le grand maître Mouban Zakia qui m'a formé. Il a fait la chanson, il m'a demandé de chanter, et j'ai chanté dans son album. Mais par contre, le secret, c'est quoi? Il n'y a pas de secret, c'est le travail. C'est l'amour du travail bien fait. Fais un album, il faut le faire avec cœur. Tu te mets à la place des gens qui doivent consommer ton album, et voilà. Mon secret, c'est le travail.
Bébé Matou, Dodona Respect. Merci Roger.
De rien Morgane, c'est moi qui vous remercie.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
Voilà, on écoutera Roger Muntou, comme d'habitude, à 20h, temps universel.
Oui, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Georges Léonard Sagnot à la mise en onde.
Et notre ami Nelson Lopez, j'ai bien dit le nom cette fois-ci, à la présentation. Chez Rubin Dorsil.
Mais Morgane Guiriec.